Bulles et reportages, principe actif.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Depuis le 17 novembre 2018, des personnes ont ressenti le besoin de se faire entendre. Pour cela, elles ont enfilé un gilet jaune, celui que chaque automobiliste possède et qu'on endosse en cas d'urgence. Ce gilet est devenu l'emblème d'un mouvement social transformé en révolte populaire. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir certaines des personnes qui occupent les ronds-points d'Évreux et des alentours. Rencontre avec Jérémy, Sylvie, Céline ou Patrick, gilet jaune, mais avant tout, être humain au parcours de vie parfois cabossé. Nous sommes avec Sylvie. Sylvie, vous êtes gilet jaune. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Avant de parler des gilets jaunes, de votre vision ou votre action dans le mouvement, je veux bien qu'on revienne pour commencer sur votre parcours professionnel. Quel métier, quelle activité vous avez eu et vous avez encore?
Donc, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le commerce et ensuite 20 ans en tant qu'auxiliaire de vie. Donc, beaucoup contact avec l'être humain et qui m'a plu beaucoup. Mais depuis 2010, j'ai eu un petit peu à cause de mon travail en tant qu'auxiliaire de vie, j'ai eu donc des problèmes de santé au niveau cervical et j'ai fait une rechute donc en 2016 et on m'a mis en invalidité en 2017. Et donc voilà, donc là actuellement je ne travaille plus et je suis beaucoup sur les ronds-points.
Parce que je suis curieux et un peu indiscret, c'est quoi vos revenus aujourd'hui? Comment vous vivez si vous ne travaillez plus? Voilà, quel est votre statut, c'est-à-dire en pension d'invalidité? C'est avec ça que vous vivez en ce moment?
Oui, tout à fait. Ils prennent sur votre relevé de carrière les 10 meilleurs salaires. Et donc, c'est vrai que c'est la moitié, donc 700 euros. Après, avec des petites assurances qu'on a, G2R, IRSEM, et il y avait le chômage, mais hélas, le chômage, j'ai travaillé depuis 17 ans, et quand je suis tombée en invalidité, on m'a donné 2,07 € par jour. J'ai cru que c'était une erreur, parce que bon, avoir travaillé pas mal de temps, on m'a dit non, vu que vous avez une pension, vous le déduit, voilà, donc j'ai eu droit à 2 euros et là ça fait depuis mon chômage s'est arrêté donc le 9 mai.
J'imagine que financièrement c'est compliqué pour vivre.
C'est très compliqué parce que même le fait que je vis avec quelqu'un, quand on veut avoir des aides, il demande toujours donc les ressources, donc on a le droit à rien, pourtant j'ai un enfant, mais on a le droit vraiment à rien du tout. Et tout augmente, les taxes partout, et nous ça bouge pas. Et ils me prennent quand même des taxes, même sur ma pension d'invalidité, ils trouvent le culot de me prendre des taxes. Je trouve ça inadmissible, mais bon, c'est pour ça qu'on se bat.
Justement, on y arrive, on le disait, vous êtes gilet jaune, depuis quand et surtout pour quelles raisons?
Alors ça a commencé donc en novembre 2018, donc quand ça a été lancé pour la taxe carbone. Donc le point de départ, ça a été ça. On a été sur, moi j'ai commencé à arriver sur le rond-point et il y avait donc quelques personnes et moi j'apportais le café. Et au fur et à mesure que j'apportais le café, après c'est moi qui est resté et les autres personnes nous apportaient le café et c'est eux qui restaient et ainsi de suite. Et puis de jour en jour, on était de plus en plus et ça a été, c'est une famille de gilets jaunes hein. Et au niveau de la vie, ça m'a apporté beaucoup. Moi qui me suis retrouvée d'un seul coup, d'avoir toujours travaillé à 17 ans et me retrouver à 50 ans, ne plus avoir de travail, ça m'a évité de tomber dans la dépression. Ça m'a vraiment aidé, les gilets jaunes, et je remercie encore et ça m'aide encore.
C'était quoi vos attentes au début du mouvement des gilets jaunes?
Mes attentes au début du mouvement des Gilets jaunes, d'avoir gain de cause par rapport à nos manifestations, nos revendications, que au moins Macron cède sur surtout la taxe carbone, parce qu'au début c'était ça, hein, c'était la taxe carbone, et puis rien ne s'est passé après.
Pour vous, c'est quoi l'identité du mouvement Gilets jaunes? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mouvement? Comment vous le définiriez?
L'identité, je vois pas du tout. Là, je passe.
Ça marche.
joker.
Quitte à ce qu'on y revienne après, voilà, éventuellement.
C'était quoi votre positionnement politique avant le début du mouvement des Gilets jaunes? Quel regard vous aviez sur la politique? Est-ce que vous souteniez un parti? Enfin voilà, un peu votre positionnement politique avant le début du mouvement.
Avant le début du mouvement, bon, j'ai toujours été Marine Le Pen. Où certaines personnes étaient surprises parce que j'ai beaucoup de personnes étrangères dans ma famille, je suis moi-même descendance sicilienne, mon mari est portugais, on m'a dit mais tu te rends compte, mais bon, moi comme j'ai dit, Marine Le Pen n'a rien à voir avec son père, donc moi j'ai mes raisons, pour moi c'est la France d'abord, donc voilà, et Marine c'est la France d'abord, voilà pour une question politique.
Est-ce que vous avez vu ou ressenti une prise de conscience politique au travers du mouvement des Gilets jaunes, au travers de la lutte, que ce soit pour vous, mais aussi celle des autres de Gilets jaunes? Est-ce que vous avez vu ce mouvement, quelque part, se politiser ou en tout cas avoir une conscience politique?
Alors au niveau des Gilets jaunes, moi je me suis plus aperçu qu'on est apolitique. Ce que j'ai très apprécié, c'est que, donc moi je suis Marine Le Pen, donc je suis RN, il y a des communistes, et on s'entend très bien. Et justement, on ne parle pas de politique, parce qu'on sait très bien que c'est opposé, et ça se passe très bien. Voilà.
Comment vous avez vécu les ronds-points? Voilà, comment vous viviez, ou vous vivez encore ce qui se passe sur les ronds-points aujourd'hui?
Comment je peux dire ça? Maintenant, on a besoin de notre rond-point. On a pris aussi une habitude, hein, ça fait 6 mois, et c'est surtout pour vraiment se faire voir que le mouvement ne s'arrête pas, parce qu'il y a tellement de mauvaises infos au niveau des chaînes télé, des informations, donc on lâche rien, il faut qu'on y soit tous les jours si on peut. Après, bien sûr, il y a notre famille, hein, faut gérer, hein. Donc c'est un petit peu déroulement. Et on n'a pas de leader là, on n'a pas de porte-parole, on communique beaucoup. Et quand on veut le faire, même un grand barbecue sur un rond-point, comme on a fait dimanche, il y avait les gendarmes, il n'y avait pas à avoir peur. Moi j'étais les voir, j'ai dit qu'on respectait les lois, ni blocage, que c'était juste pour faire voir notre mouvement et que ça allait très bien se passer comme à chaque fois. Et les gendarmes ont dit écoutez, on va se renseigner à notre supérieure hiérarchie. C'est ce qu'ils ont fait et ils m'ont dit bon, il n'y a pas de problème. J'ai dit, comme je vous ai dit, j'ai pas menti, tout va bien se passer. Bien sûr, ils m'ont dit s'il y a un problème, c'est moi qui allais tout prendre. Mais j'étais sûre de moi, puisque on fait toujours ça bien.
Comment vous avez vécu les manifestations, si vous y étiez allé, certaines ou à toutes, je ne sais pas, mais voilà, comment vous avez vécu les manifestations?
Alors, la première manifestation que j'ai faite, hein, c'est Évreux, parce que j'habite Évreux. L'acte 1, c'était bien, mais... Non, moi je trouve que l'acte bien, c'était bien. Bon, malgré qu'il y a eu des petits soucis de feu, tout ça, mais bon, on a eu les preuves que c'était pas les Gilets jaunes. Donc après, j'ai refait une manif. Bon, après, il y a eu le gaz. C'est là que j'ai découvert ce que c'était avec le gaz. J'ai été surpris. C'est vrai que c'est impressionnant quand même de se faire gazer quand en plus on fait rien parce qu'on partait. Donc c'est impressionnant. Et après, donc là, j'ai refait une autre manifestation à Rouen. Bon, c'était bien aussi, moi, je trouve. Bon, je ne suis pas tombée peut-être dans des manifestations plus agressives. Je suis peut-être tombée au bon moment. Bon, par contre, Paris, je ne veux pas. Parce qu'il y a vraiment, je pense, des différences. Évreux, les policiers, les gendarmes sont différents que de ce que je vois à Paris. Ils sont plus respectueux envers nous. Rouen, je ne connais pas trop, malgré que j'ai été parlé, parce que moi, mon but, c'est de, même si c'est gendarmes, CRS, d'aller vers eux. J'aime la communication, hein. J'ai travaillé quand même, comme je vous ai dit, 20 ans et 20 ans, toujours en contact avec des personnes. Donc pour moi, un policier, il est comme moi, hein, c'est un être humain. Donc même à Rouen, j'ai été vers eux, j'ai discuté, j'étais à côté de tous les camions de CRS, j'ai fait me prendre en photo, et ça s'est très bien passé. Que Paris, par contre, je ne le ferai pas. Parce que là, je crois que pour eux, on n'est pas des humains, on est des choses à matraquer. Ils ne cherchent pas à comprendre là-bas, à Paris. Donc, je ne fais pas les manifestations là-bas.
Justement, j'avais une question sur voilà également comment vous avez vécu la violence avec la police, aussi parfois entre gilets jaunes. Voilà, comment vous avez perçu tout ça? Moi, ce que j'entendais là dans ce que vous disiez, c'est que vous l'aviez pas forcément vécu des manifestations très violentes, mais vous les avez vues quand même, notamment à la télé ou autre. Voilà, comment vous avez perçu ou vécu tout ça?
Alors. Ce que j'ai très mal pris, c'est même le fait de regarder. Bon, je regarde pas trop la télé parce qu'il faut pas voir vraiment tout. Donc plus les personnes, moi, qui allais à Paris, qui faisaient des lives. Et ce qui m'a choqué, c'est justement les forces de l'ordre, comment qui cherchent pas à comprendre, personnes âgées, personnes pacifiques, ils tirent dessus. Et plus je regardais, plus je regardais, plus j'avais une haine, plus j'avais une haine. Et c'est pour ça, je me dis, faut que je reste là parce que. Il nous force à avoir la haine, et pourtant je suis pas une femme haineuse, j'aime le calme, je suis voilà, mais ça a été je le prends mal de voir comment ils nous traitent. Après les gilets jaunes qui se rebiffent un peu, bah c'est normal parce qu'eux ils sont sur place, moi j'ai de la haine derrière mon ordinateur, eux ils sont sur place, donc je les comprends pourquoi ils viennent un peu plus en colère, voilà.
C'était quoi ou c'est quoi vos relations avec les autres gilets jaunes? On en a parlé un petit peu, mais on peut peut-être développer ou redire voilà, vos relations avec les autres gilets jaunes, notamment sur les ronds-points ou autres.
Bah, les relations, ça se passe très bien, puisque moi, je suis une personne, comme je ne sais pas si vous avez entendu, je suis quelqu'un qui aime bien parler, je parle beaucoup. J'essaye toujours d'apaiser les choses parce que peut-être aussi par rapport à mon métier d'auxiliaire de vie, d'apprendre je vais vous donner un exemple d'une personne Alzheimer peut vous arriver, elle peut vous donner une claque, vous insulter, faut rester calme. Et j'ai appris ça, pour moi on m'a toujours dit que j'avais le savoir-être et le savoir-faire, et j'essaye de l'apporter au niveau des ronds-points et qui fonctionne un peu quand même. Parce que bon, j'étais plutôt d'un rond-point KR, moi, d'un autre rond-point, et je me suis remis avec le rond-point Delart. Et ça se passe très bien, et je pense qu'ils peuvent le confirmer aussi, que je suis une personne à vouloir toujours éviter. Moi, je suis une personne qui veut réunir tout le monde. Je conçois pas le mal, les histoires, les guéguerres. Moi, j'aimerais bien que tout le monde vive dans la paix, en rose. Voilà.
Je reviens juste deux secondes sur les différents ronds-points, et notamment à Évreux, puisque c'est ceux que vous avez connus. Il y avait une sorte de rivalité, de compétition entre les ronds-points, enfin, où ce n'étaient pas les mêmes groupes. C'était quoi, pour essayer d'un peu de comprendre voilà, ces différents points? Comment on savait plutôt de quel rond-point on pouvait être ou pas? Comment ça se passait un peu? Et puis les relations aussi entre les membres ou les personnes qui étaient sur les différents ronds-points. C'est quoi cette histoire de ronds-points, en fait?
Tout à fait, il y a bien une raison, c'est que au niveau KR, bon, vous avez toute la zone des personnes de Louviers qui venaient, qui étaient donc la direction, Gravigny, toute la vallée de l'Eure. Donc ce sont toutes ces personnes que dès qu'ils arrivaient, tac, il y avait le grand rond-point, donc ils se sont arrêtés là. Après, le rond-point des Lards, c'est donc à l'opposé. Donc voilà pourquoi il y a eu, c'est pas une différence de guéguerre ou quoi ça, c'est simplement une différence des gens où ils habitaient. Et ce qu'il y a eu quand il y a eu l'anniversaire, je ne sais plus si c'était les 3 mois, et nous les gens de KR, on était à peu près une centaine, on est parti de KR en escargot, donc sur la voie rapide, pour arriver justement à Delart. Et c'était impressionnant, c'était magnifique. De tous ces gilets jaunes de nous de là-bas, de toute la vallée de l'Eure, de rejoindre ceux de Delart, et que ça s'est très bien passé. Et après, bon, au fur et à mesure du temps, à cause des arrêtés, c'est un petit peu dispersé, mais là, on a réussi à un peu de gens de KR qui se relancent, parce qu'il y en a un peu qui ont arrêté, problèmes de santé ou âgés. Là, on essaye justement de se réunir, et ça, je pense que ça fonctionne quand même. Il faut du temps, puisque l'État nous a quand même mis beaucoup de bâtons dans les roues. Mais je pense qu'on va y arriver. On va y arriver.
J'ai quelques questions autour des relations que soit vous avez ou que peut avoir le mouvement des Gilets jaunes avec les syndicats ou avec les partis politiques. Quel regard vous avez sur ces liens ou ces relations qui existent ou qui pourraient exister, notamment avec les syndicats et les partis politiques?
Alors, on s'en aperçoit plus à un niveau des manifs. Là, c'est des petites manifs, soit pour... quand la CGT fait appel aux Gilets jaunes, donc moi, ça ne me dérange pas, puisqu'je suis apolitique, hein, je ne serai pas CGT. On a quand même tous, dans tous les partis, on a toujours quelque chose en commun. Donc moi, je suis tout à fait d'accord de faire des choses avec la CGT, qui est plus à accepter les Gilets jaunes que d'autres parti quand même. On s'en est aperçu un peu sur les manifs. Après, au niveau politique, voilà, ça s'arrête là. Moi, personnellement, je suis apolitique. Je veux bien écouter. Moi, j'écoute. Hein. C'est pas parce que j'ai une idée que je vais pas écouter les autres. Hein. Moi, je n'ai pas des œillères. Et je vais même parler avec la CGT, là, au niveau européen, comment faire donc, pour voter. Moi, personnellement, je voterai la personne qui sera au plus près de Macron pour le faire partir. Et celle de la CGT, elle m'a dit, moi, c'est pareil. Et pourtant, bon, la personne la plus proche, qui est donc le RN, donc je sais qu'il y a des personnes de la CGT qui vont voter RN parce que le but, notre combat, c'est de faire partir Macron. Donc que ce soit, voilà, moi ça serait Mélenchon un exemple qui serait plus près, je suis RN, je voterai Mélenchon. Parce que c'est ça, notre combat à la base, personnellement, c'est moi, c'est que Macron ne soit plus le roi aux européennes. Pour lui faire comprendre, puisqu'il ne veut pas faire de référendum, pour moi c'est comme si c'était un référendum. Si vraiment il est au plus bas, il démissionnera pas parce que il voudra pas, de toute façon c'est ça, un roi qui... Mais voilà, là, au moins là il va se prendre une claque et je pars positif parce qu'on voit beaucoup quand même de gens nous klaxonner, beaucoup de gens solidaires, on voit même maintenant des gens vraiment plus aisés, on se disait oh les belles bagnoles et tout, même eux ils sont pour nous, même c'est les gens commencent à ouvrir les yeux. Bon, c'est faut faire vite parce que c'est le 26 mai qu'il faut aller voter, mais voilà.
Quel regard ou quelle relation vous avez on va le faire un peu en vrac et puis on verra où vous allez, mais voilà vos relations avec la police et avec les médias. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre expérience personnelle et puis plus globalement de ce que vous avez pu voir ou entendre à droite à gauche?
Alors les relations avec les médias, donc nous ça a commencé avec plutôt d'abord Paris-Normandie, La Dépêche, les journaux. Après on a eu la maison, donc on l'appelait la maison jaune sur Gravigny. On a eu donc CNews, on a fait du direct, ils sont restés avec nous 2 jours. On a eu des Espagnols qui sont venus aussi, qui sont venus en opération. On avait fait une opération sur l'éclair, ils étaient avec nous. J'ai eu quand même pas mal de... la seule qu'on voulait pas, c'était BFM, parce que alors ça, c'est la pire. CNews, au début, on disait du direct, c'est vrai, on surveillait, parce que c'était vraiment en direct, à 3 secondes près, ce qui est normal. Au niveau des médias, ça s'est bien passé. Mais après, au fur et à mesure du temps, on a estompé tout ce qui était justement les médias, aussi bien Paris-Normandie, Dépêche, tout ça. Au début, on les appelait un petit peu, tout ça, pour se faire connaître. Hein. Mais après, par la suite, on a estompé. Parce que voilà, notre combat, c'est nous, c'est bien les médias, mais comme ils disent pas vraiment la vérité, on a fait un réveillon jaune, je sais qu'il y avait Paris-Normandie, le lendemain, je vois entrer 60 personnes. Et moi, j'ai fait les entrées, on était 200. Donc c'est là que j'ai vraiment dit, non, c'est pas possible. Là, c'est vraiment moi qui j'ai fait les entrées, je sais combien on était, et je vois le lendemain, il dit 60. C'est rageant de voir comment ils mentent, c'est incroyable. Donc les médias, maintenant, on les met un... Non, on ne veut plus. On fait notre média nous-mêmes, puis je pense que ça fonctionne même mieux, aussi bien quand on fait des tracts ou des choses comme ça. On n'a pas les moyens, mais on arrive avec cette solidarité de trouver les moyens à le faire. Quelqu'un a une photocopieuse couleur, je t'en fais 50, moi je t'en fais 100, on arrive à avoir des 2000, des 3000. Plus ça va, plus on voilà. Et on n'a pas besoin de sous de l'État comme pour faire notre publicité. Voilà.
Et avec la police ?
Alors avec la police, moi on m'a toujours dit d'essayer de respecter ce qu'ils veulent. au moins on pourra continuer notre mouvement. Moi, sur Évreux, bon, je vous dis, ça n'a rien à voir avec... je suis née à Évreux déjà, hein, donc je connais beaucoup de monde. Mais tant qu'on respecte les lois, qu'on leur parle bien, qu'on les agresse pas, comme je leur dis, il y a des lois, mais il faut les respecter dans les deux sens. Parce que quand on me dit non, il faut partir. Donc moi, je leur dis, je suis désolée, je respecte les lois. Donc vous m'apportez un arrêté préfectoral ou une ordonnance du juge, on partira. Si vous n'avez rien, je ne partirai. On ne partira pas. Et à chaque fois, ils disent, bon, alors, bonne journée. Après, voilà, ils savent à qui un peu ils ont affaire. Parce que j'aime bien un petit peu aussi les lois. Donc, de temps en temps, je regarde sur Internet quelques petites lois que je peux leur sortir. Et puis là, j'ai appris une nouvelle loi là sur les ronds-points qui peut nous sauver. Donc l'article 40, là, je ne l'ai pas encore appris parce que je l'ai eu hier, donc je vais l'apprendre pour pouvoir maintenant rester sur les ronds-points de ce fameux article 40 qui est très bien. Niveau de code pénal.
Je rebondis là-dessus. Le mouvement des Gilets jaunes, ça a visiblement, quand je vous entends, permis de découvrir d'autres choses, de se cultiver, de s'ouvrir à autre chose et d'apprendre des... d'apprendre des choses, d'aller chercher de l'information que vous n'auriez peut-être pas été chercher s'il n'y avait pas eu ce mouvement.
Disons, au niveau loi, non, déjà depuis longtemps j'aimais les lois. Donc c'est ce qui m'a permis de, quand il se passait des choses, donc c'est plus moi qui allais un peu vers les gendarmes, parce que bon, je savais quand même certaines choses. Et comme je vous dis, moi je reste calme, donc... Et c'est mon savoir-faire de mon métier, hein, parce que les policiers, vous savez, ils peuvent jouer le caïd, dire c'est moi le chef, je suis colonel ou je suis ceci. Moi, je reste calme et puis voilà, moi, tant qu'on respecte les lois, on ne pourra rien faire. Hein,
Bulle et reportage, principe actif.
À votre avis, pourquoi le président Macron a cristallisé tant de haine? Pourquoi tant de haine à son égard, à ce cher président?
Parce qu'il se prend le roi et il n'écoute pas le peuple. Et à force d'avoir des informations, c'est que c'est un banquier. Donc lui, c'est que l'argent. Lui, je pense qu'il voit que son avenir. Donc la haine, c'est que... Même quand il parle de nous, on est dégueu, il n'a pas les mots. On voit bien que c'est un gamin. Moi, je dis que c'est un gamin. Moi, j'ai été déçue qu'il ait passé président parce que je me suis dit, mettre un enfant au gouvernement, c'est... Parce que même nous, à notre âge, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Alors lui qui est bien jeune, je pense qu'il a beaucoup de choses à apprendre et ça serait bien qu'il prenne des cours de sociabilité envers l'humain aussi. Savoir comprendre et... Donc voilà, cette haine qu'on a envers ce président, qui pour moi n'aurait pas dû être président. Voilà, quand vous cherchez après plein d'informations, vous apercevez que ça a été beaucoup les riches hein, qui l'ont, Rothschild, tout ça, qui l'ont aidé. Hein, donc il est obligé un petit peu, quand on réfléchit bien, qu'on analyse tout, il est obligé quand même de faire beaucoup de choses pour lui, sinon sans eux, il n'aurait pas été président. Donc c'est un peu je te donne mais tu me redonnes. Donc nous ils s'en fichent, hein, comme on dit, on est peut-être des moutons. Mais bon, moi personnellement, à la fin de son mandat, j'espère que tous les gilets jaunes de France, tous les blessés, porteront plainte contre Monsieur Macron pour crime pour l'humanité avec Castaner et, voilà. Et Benalla. Voilà.
Comment les Gilets jaunes et le mouvement des Gilets jaunes ont changé votre vie? Est-ce que vous diriez que ça a changé votre vie et comment?
Alors, ça n'a pas vraiment changé ma vie en général, parce que bon, j'ai mes enfants, j'ai ma vie et tout ça. Ce qui a changé, comme je vous ai dit au début, c'est déjà de rencontrer des gens de tout, de tous les partis, de tous les métiers, de tous les problèmes, ça nous a réunis. Moi, ça m'a aidé au niveau, je vous dis, quand j'ai perdu mon emploi. Donc, mais ça n'a pas vraiment changé ma vie. Ça me l'a... Comment je peux le dire? Ça m'a... Comment je pourrais expliquer ça? Joker.
Alors, on va parler un peu d'avenir, si ça vous va. Comment vous voyez l'avenir, d'abord, du mouvement des Gilets jaunes? Comment vous le voyez évoluer, là, bientôt, voilà, à court terme, moyen terme, long terme? Enfin, comment vous voyez les choses évoluer pour les Gilets jaunes?
Alors, je verrai plus, je pense, le soir des résultats européennes. Là, je pense que je verrai plus pour voir l'avenir, parce que déjà, voilà, faut voir si vraiment il est plus roi. Bon, bah, déjà, ça sera, on aura gagné quelque chose. Ensuite, il va quand même falloir installer donc le RIC. Même pour, bon, je pense que ça va continuer. Moi, personnellement, je vais quand même ralentir. Parce que moi, mon combat, c'est que je ne veux plus qu'il soit roi. Donc, si je le gagne, déjà, bon, je ne me mettrai plus à fond comme au début. Parce qu'au début, c'était tout le temps. C'était du lundi au dimanche. Après, là, ça fait un petit peu de temps, là, peut-être un petit mois. Là, je commence à garder un petit peu mes week-ends aussi. Parce que bon, les enfants ne s'en rendent pas compte, mais ça leur joue un petit peu. Ils s'aperçoivent qu'on n'est pas souvent là, les gilets jaunes. Parce que j'ai un fils de 23 ans, bon, qui est à l'armée. Lui, il est parti. Mais ma fille, elle a 9 ans. Et elle suit un peu ça, mais ça, je m'en suis pas rendu compte, ça la perturbe quand même. Donc j'ai décidé de réserver le mercredi pour elle et les week-ends. Parce que après la semaine, je la dépose à l'école. Bon, comme dans le temps, je la dépose à l'école à 8h30, à 9h j'étais sur le rond-point, à 4h15 je repartais chercher ma fille. Et donc là, ça touchait pas trop ma famille. Mais là, ces derniers temps, il fallait quand même être plus présent, les manifs, il fallait de plus en plus. Donc, comme je disais à ma fille, là, je vais être obligée d'être un petit peu plus absente. Et là, bah, je me suis revenue donc sur moi-même, là, en sachant que bon, les élections arrivent, et on s'est mis d'accord avec les Gilets jaunes. Bon, après, voilà, c'est ce qui est bien dans les Gilets jaunes, c'est qu'on arrive à se comprendre. Il y en a qui travaillent, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont pas bien, il y en a qui ont besoin de... Oh, j'arrête. Je dis non, arrête pas, fais-toi une pause. Et je pense que c'est une pause qu'on avait tous besoin dans ces 6 mois-là. Il y en a qui ont voulu arrêter. Et en fin de compte, ils ont fait juste une pause, et c'est ce qu'il faut. On n'est pas des machines, hein, on est des humains. Donc voilà.
Alors, un peu dans le désordre, mais comment vous voyez l'avenir pour la société, pour la France, pour le monde? Voilà, comment vous voyez l'avenir, peut-être au-delà du mouvement des Gilets jaunes? Comment vous voyez la suite des événements, un peu?
Alors, tout va dépendre comment... c'est toujours pareil, au niveau du gouvernement. Parce qu'il va falloir rattraper beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien. On ne va pas pouvoir leur donner plein d'argent comme ça d'un seul coup. Donc ça va être très dur. Après, voir un avenir, c'est pas évident, parce que je jouerai au loto sinon. Je pense qu'on va, pour l'avenir, déjà nous on s'est dit qu'on gardera contact, même si le mouvement devait s'arrêter. On se verra peut-être plus comme avant, mais au moins de temps en temps on se dira, on se rencontrera, on fera un énorme barbecue, peut-être même reprendre un rond-point, même s'il n'y a plus le mouvement des Gilets jaunes, mais reprendre un fameux un rond-point, voilà, on se mettra d'accord. Et déjà, là, on essaie de se réunir même plus hors Évreux aussi. On se déplace, ce qu'il y a par rapport au début. Maintenant, on se déplace, on va vers d'autres ronds-points, justement, pour agrandir le mouvement, pas rester que dans Évreux. Et c'est bien parti, là, pour aussi.
Pour voilà, voir donc, un peu ce qui se passe ailleurs.
Voilà, aussi, se réunir aussi, et puis voir comment eux, ils... Bon, en fin de compte, on est à peu près tous pareils. Hein. Comme là, c'est les élections, on prépare nos tracts. Peut-être différents au niveau des écritures, mais bon, ça revient toujours au même. Donc l'avenir, même pour le monde, tout ça, le monde, c'est pas évident. Je crois qu'il faut vraiment que tout change. Alors pour la France, il faudrait que la France reste la France. Et moi, je pense que dans chaque pays, ils devraient rester dans vraiment leur pays. Chacun vraiment leur pays, et après, voilà, oui, on peut aller dans les autres pays. Mais moi, je verrais plus un monde comme ça, où ce serait même plus facile à gérer, chacun son propre pays, en fin de compte, que de vouloir gérer tous les pays en même temps. Il y a trop de monde, c'est pas possible. Moi, je vois ça comme ça.
Et comment vous voyez l'avenir pour vous, pour votre vie?
Alors là, moi, l'avenir, c'est pas très évident, parce que comme je dois me faire opérer, le chirurgien m'attend, et c'est moi qui ai peur, et je ne veux pas. Donc je suis en voir un avenir, c'est pas évident. Là, je fais tout pour ma fille, parce que c'est pour ça que je refuse l'opération. Elle a 9 ans, Je ne sais pas, suite à mon opération, je peux aussi bien rester paralysée. Ou... Puis elle est trop jeune, donc même si je m'absente, voilà, moi je veux me faire opérer pour être sûr que ma fille sera grande, qu'elle puisse se débrouiller toute seule. C'est plus pour mes enfants. Mais voir un avenir, moi j'aimerais bien, oui, partir au soleil, parce que le soleil me fait du bien. Voilà, mon but, c'est oui, c'est. Par contre, je suis née à Évreux, mais mon but, j'ai quand même fait longtemps que j'y pense, c'est de partir d'Évreux. Mais voilà, ma priorité au début, c'était que mon fils, à 18 ans, ait son bac, son permis. Il l'a eu, j'ai dit, j'ai fait ma BA, maintenant tu fais ce que tu veux. Ma fille, ça va être pareil, je veux qu'elle ait son bac, si ça existe toujours, parce qu'avec Macron, il change tout. Son bac et son permis à 18 ans, j'aurais fait ma BA, et là, je pourrais... Quand ça arrive comme ça, bah, je peux souffler un petit peu, me dire en tant que mère, j'ai réussi au moins qu'ils partent avec quelque chose. Je les ai mis au monde, donc je veux pas les. Voilà, je veux qu'à 18 ans, ils puissent pouvoir, voilà, s'ils ont leur permis, une voiture, ils peuvent après voilà, trouver du travail, c'est plus facile. Et voilà, déjà, mon avenir, c'est ça, c'est que je veux que mes enfants soient. C'est eux mon avenir en fin de compte. Moi, j'en suis à la moitié, j'ai 50 ans. Bon, on peut vivre vieux jusqu'à 100 ans maintenant. Parce que même dans mon métier, j'ai rencontré une dame, elle avait 120 ans. Donc, c'est ce que je me dis, on peut vivre très, très vieux. Mais voilà, mon avenir, moi, c'est mes enfants, c'est eux l'avenir.
Quelles sont vos attentes aujourd'hui, vos revendications et vos espérances pour demain ?
Mes attentes, revendications... Mes attentes pour demain... Bah, toujours la même chose, hein. Attendre le 26 mai, donc pour demain, continuer ce qu'on fait, se faire voir plus. C'est toujours la même chose, là, le gilet jaune, on ne peut pas avoir plus demain. Je pense que ça sera plus après les européennes, là, où on pourra vraiment parler d'une suite. Que là, c'est pas évident de parler d'une suite sans savoir exactement, parce que si par malchance... C'est Macron passé, ben là je crois que tous les gilets jaunes vont se prendre une claque. Parce qu'on ne pourra pas y croire. Il y a tellement de monde qui nous soutiennent. Et quand des fois j'ai vu, ils nous disent vous êtes au plus bas à 45%, mais c'est super, puisque le Macron lui il est à 24%. Alors sinon on est au plus bas à 45%, hein, Macron à 24% est un peu ridicule. Donc pour moi, Macron va partir. Voilà. Non, mais ça on le saura que le dimanche soir.
Donc, il faudra qu'on se revoie après les élections européennes éventuellement. Du coup, juste pour rester deux secondes sur ces élections-là, pour vous, ces élections-là, c'est le bras de fer entre, d'un côté, le président, le gouvernement, et de l'autre, le mouvement des Gilets jaunes. C'est vraiment ça, ce qui se joue pour vous ?
Oui, parce que c'est... on n'aurait rien fait, il n'y aurait rien eu. Tout le monde aurait payé. On serait déjà à 2 euros à l'essence, qui est déjà bien encore en train de monter. C'est justement que, par la suite, là, j'espère qu'on va bien, on est en train d'en reparler pour reparler de la taxe carbone, hein, revenir en novembre, parce que là, c'est vraiment se fiche de nous, parce que l'essence, tout le monde en a besoin. Après, j'ai tout trou de mémoire maintenant.
Peut-être. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous auriez envie de dire qu'on n'a pas évoqué là dans cet échange ? Je vous laisse le mot de la fin, quelque chose qui vous semble important, essentiel ?
Pour tous les citoyens, pensez à votre avenir. Si vous voulez vivre et plus survivre aux européennes, il faut bien réfléchir. Il faut faire partir le roi Macron. Voilà. On lâche rien.
Merci à vous, merci. Sylvie.
Il n'y a pas de quoi, merci à vous.
Bulle et reportage, principe actif.